message vous est proposé gratuitement. Gratuitement. Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Comme vous savez, c'est une journée très spéciale et une belle petite fille qui est venue au monde, Rebecca Gagné. Et puis je vais inviter maintenant les parents, Dominique et... Ah, elle n'est pas là, la petite... la maman. Ils ne savaient pas que ça s'en venait aussi rapidement. Mais là, je vous donne l'occasion et le temps d'admirer cette petite fille-là. Une belle petite fille. Vous savez, même avant que Marie-Pierre le sache qu'elle était enceinte, le Seigneur m'a donné une vision pendant qu'on était en prière. Puis j'ai dit, hein, qu'est-ce que je vois sur vous? C'est des ballons. J'ai dit, je sais pas, là, mais vous avez plein de ballons. Je vois toi puis Dominique avec des ballons. Puis là, Marie-Pierre m'a dit, par la suite, elle dit, en tout cas, elle ne me l'a pas dit dans la réunion, c'est la semaine d'après. Elle dit, quand tu me dis ça, que tu me voyais avec des ballons, elle dit, j'ai compris que j'étais enceinte. Puis là, elle a fait le test. Et puis finalement, elle était enceinte. Alors, c'est pour ça qu'ils se promenaient avec des ballons. Ils se réjouissaient du poupon, du cadeau que Dieu leur donnait. Alors, c'est fun. Puis si vous avez reçu une carte de remerciement de Dominique et Marie-Pierre, vous avez reçu, il y avait plein de ballons sur leur carte. Parce que c'était justement un cadeau de Dieu. Vous savez, Dieu connaît toutes choses à l'avance. Hein? Il connaît notre journée de naissance. Il connaît la journée qu'on va mourir. Dieu connaît tout sur nous. Il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Alors, Dieu a un cœur et un plan, une destinée pour Rebecca. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va bénir cet enfant. Et puis, on est même équipé avec un petit, une petite couverte, là. Bon matin. Et puis, je pense aussi, vous avez deux personnes que vous voulez inviter avec vous. Cathy et Sylvain. Donc, c'est les parrains et marraines. Et on va expliquer un petit peu c'est quoi, parrains et marraines. C'est des mentors spirituels. Bonjour, bienvenue. Et ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lire quelques textes avant qu'on fasse la consécration de Rebecca. C'est un moment solennel parce que c'est une cérémonie devant Dieu. Comme un mariage, c'est une cérémonie. Et il y en a peut-être, c'est la première fois que vous allez voir ça, mais c'est biblique. Et on va voir ça ensemble. Premièrement, je veux juste attirer votre attention sur Marc, chapitre 10, verset 13 à 16. Ici, on voit le cœur de Jésus pour les enfants. Pensez-vous que le Seigneur Jésus aime les enfants? Oui. Dans Marc 10, chapitre 13 à 16, ça dit, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. » Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur rassemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alors ça, c'est le cœur de Dieu pour Rebecca. Il veut bénir aujourd'hui Rebecca. Et qu'est-ce que je trouve remarquable dans ce texte-là? Ça dit, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que si on n'est pas simple comme un enfant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Des fois, la religion veut compliquer l'entrée au ciel. Savez-vous ça? Pour entrer au ciel, ils vont dire, mais faites ci, faites ça, et puis si vous remplissez toutes les exigences de Dieu, là, peut-être vous allez être assez bon pour entrer au ciel. Mais Dieu dit, ça prend juste la simplicité d'un enfant et la foi d'un enfant pour recevoir la vie éternelle et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et moi, j'ai accepté, Seigneur, quand j'avais 3-4 ans, j'étais assez simple pour comprendre que Jésus m'aimait et qu'il voulait me sauver. Et puis, on croit pour elle aussi que prochainement, dans les années à venir, qu'elle va avoir la compréhension pour accepter le Seigneur. Une autre chose que je veux vous lire, vous êtes patient, là, hein? ça va bien, et béni, elle. C'est dans Luc 2:22, la consécration des enfants dans la parole. On voit ici que Joseph et Marie le portèrent, en parlant de Jésus, à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement présenter Rebecca au Seigneur Jésus. Et une autre chose, quand on parle d'une consécration des enfants, en fait, on parle d'une consécration des parents autant que pour l'enfant. Ça fait tellement partie. Je vous explique pourquoi. Parce que la parole de Dieu, Dominique et Marie-Pierre, Dieu vous donne une responsabilité avec cet enfant-là. Saviez-vous ça? Sûrement. Sûrement. Bien, si vous ne saviez pas, vous venez de l'apprendre, ok? Vous avez une responsabilité. Dans Proverbes 22, verset 6, il est écrit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors, quand vous allez enseigner la parole de Dieu à votre enfant, le Seigneur va faire en sorte qu'elle puisse comprendre et grandir dans les voies de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, c'est dit, « Et vous, Père, donc, et vous, Dominique. » Okay, c'est spécifiquement pour les pères, et je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être bon pour les mères aussi, mais ça dit, vous, Dominique, n'irritez pas vos enfants. Okay? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et des fois, dans la société dans laquelle on vit, on a peur d'élever nos enfants en leur mettant des bornes, hein? Mais les enfants ont besoin de ça pour avoir une sécurité. Quand ils savent, touche pas au fourneau, mais c'est une bonne chose pour eux. Hein? Surtout quand il est allumé. Et d'autres choses, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15, ici on voit l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Et puis il disait, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Alors Dieu, qui avait un plan pour Timothée, qui puisse apprendre la parole de Dieu, la même chose, Dieu a une destinée et une volonté que Rebecca puisse connaître la parole de Dieu dès son enfance. Et c'est possible. Et souvent, les gens disent, bien, les enfants vont aller dans le monde, ils vont goûter au péché, et puis par la suite, ils vont revenir dans l'Église. Mais ça, c'est erroné. Nous, on croit, et je relâche ma foi aujourd'hui, que Rebecca va toujours demeurer avec Dieu, qu'elle n'ira jamais dans le monde. Amen. T'es-tu d'accord, toi, Rebecca? Oui, mais c'est vrai. Souvent, on pense ils vont aller dans le monde et Dieu va les ramener. Non, Dieu va les garder à place. Croyons que Dieu va garder Rebecca. Elle n'aura pas besoin de se faire briser le cœur dans le monde. Certainement, on vit sur cette planète, on se fait blesser, peu importe. Hein. On peut avoir des chagrins dans la vie, mais il y a des chagrins inutiles, des fois, qui sont causés par le péché. Puis on va prier que Dieu la préserve. Et dans Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 7, ça, c'est encore votre responsabilité que je vous rappelle aujourd'hui. Il est écrit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu vous appelle pas à avoir une religion à propos de Dieu, mais il s'attend que vous allez avoir une relation vivante avec Dieu. Comme ça, votre enfant va vous voir vivre avec Jésus à tous les jours. Et c'est pas juste, « Ah, oh, c'est dimanche matin, on devient chrétien. » Mais non, toute la semaine, votre enfant va vous voir prier. Vous allez parler de Dieu quand vous allez vous lever, quand vous allez vous coucher, quand vous allez en voyage. Ça fait partie de votre vie. Et puis déjà, je peux le voir dans votre vie, c'est déjà une réalité. Et puis ce matin, moi, je me dois de vous dire la parole, vous rappeler tout ça, et vous pouvez juste dire « Amen ». Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va consacrer Rebecca, on va prier pour elle, on va lui donner l'onction d'huile. L'huile représente simplement le Saint-Esprit, donc elle est mise à part pour Dieu. Et on relâche notre foi à ce moment-là pour que Dieu puisse la préserver dans ses voies, comme ses parents vont s'engager de marcher avec elle et de servir de modèle dans la foi chrétienne. Et ce matin, c'est pas un temps où Rebecca fait partie d'une religion, mais c'est un temps où on la bénit pour qu'elle puisse prendre la décision un jour de donner sa vie à Jésus-Christ. Et c'est ça notre prière, qu'elle-même, de son cœur, qu'elle puisse décider et dire, la foi que j'ai vue dans mes parents, la foi que j'ai vue dans mes mentors spirituels aussi, moi je veux vivre comme eux, je veux marcher avec Jésus comme eux. Et quand elle va prendre cette décision-là, par la suite, elle pourra passer par les eaux du baptême. Et ça, c'est la vision des parents. Dans 1 Pierre 3:21. Ça nous dit, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, donc l'eau ne nous lave pas en concernant le baptême, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est quoi qui nous sauve? Est-ce que c'est l'eau? Même si on met beaucoup de chlore dans l'eau, on ne sera pas plus sauvé. Donc, ce n'est pas l'eau qui nous sauve. Ça dit, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, comme Rebecca va vieillir et puis elle va pouvoir comprendre, peut-être à 3-4 ans, Floramie, ma petite fille, elle a compris à l'âge de 2 ans qu'elle voulait donner sa vie à Jésus-Christ, puis elle a prié et puis elle a été touchée par Dieu. Et des fois, elle est ici en avant, puis elle pleure, puis elle lève les mains, touchée par la présence de Dieu. Même la semaine passée, il y avait un enfant qui a quitté l'église. Puis on se demandait, mais pourquoi tu quittes? Qu'est-ce qui se passe? La personne, l'enfant disait, je suis trop béni, je suis trop dans la joie. Jésus est venu me toucher dans mon cœur. Mais c'est possible pour les enfants aussi de ressentir la présence de Dieu. Alors, Mais ça, qu'est-ce que ça nous dit dans 1 Pierre, chapitre 3, 21, ça dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et quand elle va s'engager, là, on va se réjouir. Et vous nous le direz, à 3 ans, 2 ans, peu importe, quand on va dire oui à Jésus, c'est tout ça. Hein, c'est juste ça que ça prend. C'est un oui de la part de Dieu. À Dieu de notre part. Amen. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement procéder. Et peut-être pour les photos, je vais vous demander peut-être de juste vous venir un à côté de l'autre. Et puis, vous allez répéter, oui, nous le faisons, si vous êtes d'accord, bien sûr. OK, alors c'est un temps de l'alliance ici. Je vous pose quelques questions et par la suite, on va bénir Rebecca. Ici, on peut comprendre, présentez-vous maintenant votre enfant devant Dieu dans une consécration solennelle. En tant que parent, vous consacrez-vous à élever votre enfant en le corrigeant et en l'avertissant selon le Seigneur. Promettez-vous de lui inculquer les enseignements de Jésus et de lui faire pratiquer la prière et de le guider pour que se développe en lui un caractère conforme à celui de Jésus. Promettez-vous d'essayer autant que possible de façonner la vie familiale de votre enfant à la fois par le culte de famille, par vos rôles et votre exemple, afin qu'à l'âge approprié, il en vient naturellement à faire une confession publique de Jésus et à se joindre à l'Église par la communion et le service. Donc, les parents se sont engagés ce matin devant témoins comme quoi ils veulent élever leur enfant dans les voies de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prier. Et vous pouvez vous joindre à nous dans la prière ce matin. En plus ici, juste pour rajouter, c'est l'huile d'Israël. Elle va être encore plus bénie. Ça sent bon en plus. Seigneur Jésus, on prie pour Rebecca aujourd'hui. Seigneur, on prie que tu puisses vraiment mettre cet enfant à part pour ton service. Seigneur Jésus, on te remercie pour ce cadeau du ciel. On te remercie, Seigneur, parce que tous les jours de sa vie, tu les connais à l'avance et t'appelles toutes ces journées-là béni, béni, béni. On te remercie, Seigneur, que tu aies des projets de paix et non de malheur, des projets pour lui donner un avenir et de l'espoir. On te remercie pour cet enfant. On te remercie pour ses parents aussi. Aujourd'hui, on les bénit également, comme quoi ils vont guider leur enfant dans les voies de Dieu. On te remercie, Seigneur, parce que cette petite fille va grandir dans un foyer chrétien où Jésus est le centre. Et on te remercie. Puis on prie également pour les mentors qui puissent être une inspiration dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut les applaudir ce matin. C'est une belle petite fille, Rebecca. Gloire à Dieu. Amen. C'est merveilleux de savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu a un désir qu'on puisse avoir cette certitude à 100% comme quoi il y a une destinée pour nous. Et c'est à nous de découvrir cette destinée-là. Alors ce matin, le sujet de l'enseignement, c'est la nouvelle naissance. C'est un message que peut-être certains d'entre vous vous dites, bien, je connais ce message-là. Mais savez-vous, des fois, on prend pour acquis que les gens dans nos églises connaissent ce message-là. Et des fois, on ne vérifie pas des choses dans le cœur des gens pour s'assurer qu'on ait la révélation personnelle de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, je crois que c'est dans le cœur de Dieu que chaque personne ici puisse avoir la révélation de la nouvelle naissance. Amen. Alors, je vais vous inviter à tourner dans Jérémie, chapitre 1 et le verset 5. En passant, je voulais juste vous faire remarquer dans Jean, chapitre 2, verset 5, que le message de Marie, la mère de Jésus, c'est un message que j'aime beaucoup. Marie a dit au serviteur, aux noces de Cana, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors Marie, la mère de Jésus, nous disait, « Faites ce que Jésus vous dira de faire. » Et ce matin, on va se pencher sur un texte, justement où Jésus nous dit quelque chose de super important qui change le courant de notre vie. Mais premièrement, on va commencer dans Jérémie chapitre 1 et le verset 5 pour découvrir que nous avons tous une destinée en Dieu. Jérémie 1, chapitre 5, il est écrit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ici, on voit que le Seigneur avait consacré le prophète Jérémie. Même avant sa naissance, Dieu savait à l'avance toutes les choses qui se passeraient dans sa vie. Et même Jérémie avait été consacré, comme nous avons fait ce matin. Mais dans le cas de Rebecca, elle est sortie du ventre de sa mère. Mais dans le cas du prophète Jérémie, même avant qu'il puisse sortir du ventre de sa mère, cet enfant était consacré pour le service de Dieu. Et quand on se dit ça, comment est-ce que c'est possible que le Seigneur puisse connaître toutes choses à l'avance? Bien, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est beaucoup plus grand que nous. Nous, on a une compréhension très limitée. Vous savez, on réalise, bon, on a une journée où on va naître, une journée où on va décéder. Et puis souvent, quand on va voir dans un cimetière, on voit une pierre tombale, on voit une petite ligne. Hein? Comment on dit ça en français? Un dash? Un tiret. Alors, admettons, vous êtes né en 1960 et vous mourrez en 2009, bon, ben, il y aurait le tiret là. Et le tiret représente votre vie. Hein? Ça représente toute votre vie. Et c'est comme ça qu'on comprend l'existence en tant qu'être humain. Mais Dieu n'a jamais eu de date de naissance. Il n'y aura jamais aucune journée où il va mourir parce que Dieu est éternel. Amen. Dieu est éternel. Est-ce qu'on peut saisir la grandeur de Dieu avec notre intellect? Non, c'est absolument impossible. Et pourtant, Dieu, dans son amour et Dieu, dans sa grandeur, Dieu connaît toute notre vie à l'avance. Et il y a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'on puisse réaliser? C'est que dans son cœur, dans le cœur du Père, nous ne sommes pas juste des numéros. Dans la société, les gens vont vous demander, c'est quoi votre numéro d'assurance sociale? N'est-ce pas? Partout où vous vous promenez, vous allez à l'hôpital, est-ce que je pourrais avoir ta carte d'assurance maladie? Vous allez à l'épicerie, et si vous payez avec votre carte de crédit, encore une fois, on veut un numéro. C'est toujours une question de numéro dans la société. Mais avec Dieu, c'est pas une question de numéro, c'est une question du cœur. Et dans la foule, même si on est dans une grande foule, Dieu connaît exactement qu'est-ce qu'on vit, et Dieu connaît les émotions qu'on peut vivre, le chagrin comme la joie, et Dieu est concerné pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes ses créatures et Dieu veut faire de nous ses enfants. Alors ce matin, on voit ça. Et dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est écrit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Vous savez, notre Père céleste, comme je dis, a un grand plan pour notre vie et c'est un plan où Dieu veut révéler sa bonté envers nous. Au Québec, souvent, on parle du bon Dieu comme étant le bon Dieu. Je ne sais pas, vous jasez des fois avec les gens, et puis s'ils sont moyennement sensibles aux choses de Dieu, des fois, ils vont se référer et dire, « Ben, le bon Dieu, peut-être il va faire quelque chose pour moi, n'est-ce pas? » Mais Dieu est réellement bon. Et c'est l'enseignement, je pourrais dire, numéro un de notre assemblée ici, c'est qu'on veut prêcher la bonté de Dieu. On veut que les gens qui arrivent ici puissent découvrir que c'est pas un Dieu mort, c'est pas un Dieu d'un livre seulement, mais c'est un Dieu d'un livre et d'une vie. Qu'on puisse découvrir la vie en Jésus-Christ. Amen. Alors, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous avons tous une destinée. Si on veut vivre ce que la parole de Dieu nous parle concernant la nouvelle naissance, faut réaliser que nous avons une destinée en Dieu. La prochaine chose aussi qu'on veut regarder, c'est que Dieu a l'ultime destinée en vue pour nous. Et voilà, dans Jean 3, chapitre 3, je vais vous inviter à tourner là. On va regarder ensemble Jean, chapitre 3 et le verset 3. Jésus lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et vous savez, des fois, il y a des gens qui vont venir frapper à votre porte un samedi matin, ils vont prêcher un royaume. Peut-être que vous avez eu une visite comme ça. Quelqu'un qui vient frapper à 8 heures le matin pendant que vous dormez encore et puis ils viennent vous prêcher le royaume. Vous pouvez leur demander la question, comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans le royaume? Demandez-leur, comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans le royaume? Et puis, souvent, peu importe la religion des hommes, les gens vont toujours vous dire, vous devez passer par notre bain de baptême. Si tu passes par notre bain de baptême, là, Dieu va t'accepter. Mais Dieu nous parle de quelque chose de vraiment différent. Il nous parle qu'on doit naître de nouveau. C'est le texte Jean 3, chapitre 3. On doit naître de nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser la question, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Est-ce que c'est possible? Certainement pas. Hein? On peut pas retourner dans le ventre de notre mère. Mais comme nous avons un père physique, une mère physique, biologique, pareillement, Dieu veut devenir notre père spirituel. Il veut nous adopter dans sa famille. Et quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre cœur, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe de la mort à la vie. On est transféré d'un royaume à un autre, du royaume des ténèbres, de la noirceur, au royaume de la lumière de Dieu. Et c'est ça le cœur de Dieu. Il veut qu'on puisse avoir cette relation vivante avec lui. Ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est vous poser la question ce matin. Si vous pensez, bien moi, j'ai déjà la foi en Dieu, ok? J'ai cette foi vivante en Dieu et je pense d'aller au ciel. Mais si je posais une question supplémentaire, ce matin, si vous mouriez en sortant de cette église ce matin, vous mourrez et puis là, vous vous présentez devant Dieu et Dieu vous pose la question, bien pourquoi est-ce que je te laisserais entrer au ciel aujourd'hui? Et là, vous êtes devant Dieu, quelle serait votre réponse ce matin? Si Dieu vous demandait, mais pourquoi est-ce que je te laisserais rentrer au ciel? Et savez-vous qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va regarder une petite vidéo qu'on a ici, qu'on va vous faire voir justement les explications que les gens vont donner en général quand ils vont comparaître devant Dieu au ciel. Alors, je vais attirer votre attention et peut-être on va baisser les lumières un petit peu, simplement, et je vais préparer la vidéo et par-dessus, je vais continuer sur le message.
Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there.
I tried to live a good life.
Well, let's see how good. This way. Next. File, please.
Okay, I admit it. I did a lot of bad things.
Yes, I see.
But I've done good things, too, you know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park.
Mm-hmm.
That should balance out, right?
Let's find out. This way.
That should have balanced out, right? It should have balanced out.
Next. File, please. Impressive.
Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more.
Mm-hmm. And is this your subscription?
I only read the articles. I only read the articles.
Next.
My mom goes to church.
Was baptized as a baby?
Take American Express, right?
Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him.
Hey, wait a minute. That is totally not fair.
That's why it's called grace. Next.
On vient de voir ce matin tout l'Évangile dans une capsule d'une minute. Quelque chose, hein? C'est quand même ça, l'Évangile, c'est aussi simple que de recevoir Jésus-Christ qui reçoit notre punition à notre place. Si on fait confiance à notre performance personnelle pour se rendre au ciel, on va réaliser des choses quand on va arriver là-bas. Mais heureusement, aujourd'hui, on peut réaliser la grandeur du salut en Jésus en regardant qu'est-ce que Dieu dit. Hein, vous savez, il y a toutes sortes d'opinions dans le monde. Les gens peuvent dire, pour aller au ciel, il faut faire telle ou telle affaire. Mais dépendamment des personnes, les opinions changent constamment. Donc, la place où on peut trouver la parole certaine, c'est la parole de Dieu. Alors, on va continuer ce matin concernant l'ultime destinée. OK? Et ça nous parlait justement de ces deux questions-là, les questions qu'on peut dire à diagnostic. Qu'est-ce qui nous révèle? Qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne? Quand on regardait cette vidéo-là avec les gens qui disaient, bien, moi, j'ai été une bonne personne, et je pourrais vous dire que 95% des gens dans notre société, si on leur demandait la question, mais pourquoi toi tu irais au ciel? Pourquoi est-ce que Dieu te laisserait rentrer au ciel? En général, les gens vont dire, bien, je suis pas si pire, je suis une bonne personne, n'est-ce pas? Tout le monde va dire ça. Mais savez-vous le critère d'entrée pour aller au ciel? Le critère d'entrée. On va voir qu'est-ce que Dieu dit. Dans Matthieu 5, 48, il est écrit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Qui d'entre vous ici ce matin sont parfaits? Donc, il n'y a pas grand main qui se lève. Joël est parfait. Bon, c'est super. Mais qui d'entre nous, dans notre personne, en nous-mêmes, qui est parfait? Il n'y a personne de parfait, n'est-ce pas? Même si on soit très light et puis on dirait bien, je pense que je suis quand même pas si pire. Mais savez-vous, être pas si pire, c'est pas assez dans le livre de Dieu. Parce que pour se rendre au ciel, il faut être 100% parfait. Mais il n'y a personne d'entre nous qui peut rencontrer cette exigence-là. Et vous savez, il y a des gens qui vont dire, ouais, ben j'ai quand même une majorité des choses que je fais sont bonnes, là. Mais je vais vous donner l'illustration suivante. Admettons, je vous invite à venir manger chez nous. OK? Et puis, je prépare une omelette. C'est un brunch, admettons. OK? On fait un brunch. Je vous invite chez nous à manger un brunch. Je prépare des omelettes. Mais tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient de retontir. Je ne savais pas. Et je dois rajouter des œufs dans l'omelette. Et puis, c'était tous des œufs qui étaient vraiment frais. C'était vraiment très bien. Mais là, la visite qui vient de retontir, je n'avais pas prévu le coup. Alors, je dois rajouter des œufs. Je regarde dans mon frigidaire. Je n'ai pas fait le ménage. Ça fait 6 mois. Et là, je trouve un œuf dans le fond. Ah! Ça, je vais le mettre dedans. Mais c'est un œuf pourri. Et là, je craque ça, je mets ça dans l'omelette. Et même s'il y avait beaucoup d'œufs qui étaient vraiment bons, mais finalement, un œuf pourri fait de l'omelette pas mangeable. On ne peut pas consommer cette omelette-là, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. Même si on lui offre une belle vie, plein de bonnes choses, un petit péché fait de nous inconsommable, là. Dieu peut pas nous recevoir, ou consommable plutôt. Hein? Dieu peut pas nous recevoir parce qu'on est imparfait. Et Dieu a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, c'est quoi la solution pour nous? Si Dieu veut nous sauver de l'enfer, et c'était le cœur de Jésus, c'est pour ça qu'il est venu, si Dieu veut nous sauver de l'enfer pour pas qu'on soit séparés devant Dieu, si Dieu veut pas qu'on soit séparés pour lui pendant l'éternité, alors on doit être réconcilié avec Dieu, mais la seule façon qu'on peut être réconcilié, c'est en recevant Jésus-Christ dans notre vie, et on lui demande de nous pardonner de tous nos péchés. Et là, on reçoit sa justice, on reçoit en réalité son paiement. Quand Jésus est allé à la croix, il a pleinement payé la punition de tous les pécheurs. Et puisque nous sommes tous pécheurs, à quelque part, qu'on ait fait des petits péchés ou des gros péchés, peu importe, ça change rien, on est tous imparfaits devant Dieu. Alors, quand on reçoit le pardon de Dieu, Dieu nous lave complètement, on est purifié, et comme on a vu dans la vidéo, on peut se présenter devant Dieu, et Dieu va nous voir et dire, « Bien, c'est Jésus qui a payé pour ton entrée au ciel. » Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de performer et se dire, ben peut-être si je suis assez bon, là, Dieu va m'accepter au ciel. Et finalement, c'est ça que toutes les religions du monde essayent d'être acceptables en performant. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on change notre perception et au lieu de vouloir performer pour Dieu, il veut qu'on reçoive sa performance pour nous. Jésus est allé à la croix, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse lui donner notre vie et dire, Seigneur, fais de ma vie un chef-d'œuvre, je te donne ma vie, je réalise que j'ai besoin d'un sauveur. Mais si on pense qu'avec notre justice, avec notre propre bonté, on peut y arriver, bien, Seigneur va nous permettre d'arriver au ciel selon notre bonté. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus aurait payé pour notre entrée sur la croix pour rien. Si on pouvait se débrouiller toute seule. Mais heureusement, aujourd'hui, on peut avoir la révélation de la grâce de Dieu. C'est vraiment ça, une révélation de la grâce. Et c'est pour ça que Dieu, dans sa parole, nous parle jamais d'une église ou une religion qui nous sauve. Il nous parle toujours d'une personne qui nous sauve. Amen. C'est une relation vivante. Et ça se peut que ça fait 30 ans que vous êtes à l'église, ça change rien. Vous faites dans une église évangélique, peu importe le nom, 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des pasteurs qui n'ont jamais eu la révélation de la grâce de Dieu. Et si on n'a pas reçu la révélation que Jésus a pleinement tout payé pour nous, on va passer à côté de notre destinée et on vivra pas l'expérience de la nouvelle naissance. Et vous allez dire, ben peut-être, je l'ai-tu vécu, la nouvelle naissance? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut même savoir? Et dans 1 Jean 5,13, ça dit, « Je vous ai écrit ces choses, en parlant de la parole de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut pas qu'on vive notre vie dans la crainte et se demander, coudonc, je l'ai-tu, la vie éternelle? Est-ce que je vais passer l'éternité avec Dieu ou non? Mais Dieu veut qu'on puisse avoir la révélation aujourd'hui, qu'on puisse le savoir. 1 Jean 5,13. Et dans Jean 6,47, ça dit, tous ceux qui ont cru en lui ont la certitude dans leur cœur qu'ils sont passés de la mort à la vie, qu'ils sont sauvés. Alors, le critère d'entrée est tellement facile et tellement simple qu'à l'âge de 3 ans, j'ai compris que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. C'est simple, n'est-ce pas? C'est super simple et l'ennemi a su que c'était tellement simple qu'il a voulu compliquer les choses. Et le plus qu'on complique, le moins qu'on comprend. C'est comme ça la religion, compliquons les choses et puis finalement on vient étourdi et on pense toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais heureusement, Jésus nous dit dans sa parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. Alors vous pouvez être libre aujourd'hui et sortir de cette place avec la certitude à 100%. Vous savez que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez passer l'éternité avec Dieu au ciel parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Et je souhaite que vous ne fréquenterez pas une église pendant 25 ans et ne pas réaliser ça parce que vous allez vivre une vie triste. Et peut-être vous vous dites, ben moi j'essaye de vivre la vie chrétienne, j'essaye de prier, j'essaye de lire ma Bible, mais on dirait ça ne vient pas me toucher, ça ne vient pas me chercher. Mais savez-vous, Dieu aujourd'hui veut faire un changement dans votre vie pour faire en sorte que vous puissiez goûter à la joie d'être un enfant de Dieu. Il y a une joie. Mais on continue. La grâce de Dieu, c'est ça de ce dont on parle aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est littéralement un cadeau que Dieu veut vous offrir à tous et chacun aujourd'hui, tous ceux ici, ceux par l'Internet aujourd'hui, à la radio. Dieu veut vous faire un don. Et c'est de ce temps ici, vous savez, on parle de Noël, on parle de la naissance du roi des rois. Et la raison pourquoi Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous offrir le ciel. Et combien d'entre vous, dans le temps de Noël, quand vous avez reçu un cadeau, que vous avez sorti de l'argent de vos poches pour payer ce cadeau-là? Quelqu'un ici? Vous avez reçu un cadeau de Noël et là, vous avez sorti, excuse, je vais sortir un 10$. Merci beaucoup pour ce cadeau-là. Je pense que vous auriez insulté la personne qui vous offrait le cadeau, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, Dieu veut nous offrir un cadeau, celle de la vie éternelle. Et puis on dit, bien, excuse Dieu, je vais te donner mes bonnes œuvres. Je vais essayer d'acheter le ciel par ma performance. Et je crois qu'on va insulter le Seigneur en faisant ça, parce que Dieu a fait ça de bon cœur. Jésus est allé mourir sur la croix, il a pleinement payé le prix pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Alors, il veut qu'on reçoive le don de la vie éternelle comme un cadeau, justement. Et dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, vous allez voir que qu'est-ce que je vous dis, c'est pas mon invention. Heureusement, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Et le mot « grâce » nous parle ici de la faveur non méritée de Dieu. Donc, quand quelqu'un vous fait une faveur, c'est quelque chose que vous ne méritez pas, n'est-ce pas? Et est-ce que quelqu'un est... Bon, gloire à Dieu, 2 personnes. Alléluia! C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, une faveur non méritée, par le moyen de la foi. C'est le moyen que vous pouvez rencontrer le Seigneur. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dites « don de Dieu ». Bon, ben c'est pas compliqué. C'est un don. Ce n'est point par les œuvres ou par votre performance. Ça vient la même chose. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Savez-vous, parce que si vous vous dites, bien, moi je mérite d'aller au ciel parce que j'ai été un missionnaire 25 ans en Afrique et puis j'en ai aidé des enfants, des orphelins, j'ai donné beaucoup d'argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bien là vous auriez raison de vous dire que bien, finalement vous êtes une bonne personne et que vous méritez le ciel, n'est-ce pas? Mais Dieu dit qu'on mérite, il n'y a personne qui mérite le ciel. C'est gratuit, c'est un cadeau comme ça. Verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Voyez-vous, on a été sauvés pour faire quelque chose de bien. Et oui, certainement, Dieu veut qu'on fasse des belles choses, mais c'est pas par ces belles choses-là qu'on peut entrer au ciel. Et c'est ça, on met la charrue avant le bœuf. Hein, parce qu'on essaie, je dis, c'est amen, hein, l'expression, je l'ai eue cette fois-là. Moi, des bâtons d'un roux, le bois d'un roux, moi, mes expressions, j'en invente au fur et à mesure, comme vous savez, et c'est gratuit. Mais tout ça pour dire que avec le Seigneur, il veut premièrement qu'on ait la révélation de son amour et qu'il nous accepte tel que nous sommes. Aujourd'hui, si vous êtes le pays des pécheurs, Dieu vous aime quand même. Et il vous aime comme vous êtes. Et Dieu dit dans sa parole, lorsque vous étiez encore pécheurs, je me suis donné pour vous. Hein? Le Seigneur a cet amour, pas parce qu'on est digne. Dieu nous aime, il sait qu'on est tous indignes. Nous sommes tous indignes. Mais quand on réalise, j'ai besoin de sa dignité, j'ai besoin de son salut, j'ai besoin d'être lavé, d'être purifié, là, savez-vous qu'est-ce que Dieu fait? Il nous décrète, il nous appelle littéralement des saints. Vous lirez dans la parole de Dieu, vous commencerez dans Éphésiens, lisez ça. L'apôtre Paul, il se réfère aux saints à Éphèse. Mais c'était pas des gens qui étaient décédés, c'était tous des vivants, des gens qui avaient été mis à part. La sainteté, savez-vous c'est quoi que ça veut dire? Ça vient du mot sanctification, et le mot sanctification se réfère au fait que Dieu nous met à part pour son service. Donc par exemple, cette Bible-là, elle est sanctifiée parce qu'elle est réservée pour le service de Dieu. Je peux dire cette petite manette, elle est mise à part pour Dieu, donc elle est sanctifiée. Si vous, vous êtes mis à part pour Dieu, vous êtes sanctifié. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est sanctifié, nous devenons des saints. Donc, mon nom, c'est Saint-Joël. Et vous pourrez m'appeler comme ça, si ça vous tente. Bonjour Saint-Joël, ça va bien? Mais c'est littéralement ça que la Bible nous enseigne. Mais là, vous dites, oh, mais j'accepte pas ça, c'est bien trop arrogant. Non, c'est ce que Dieu nous dit. Donc, et c'est pour ça que Joël, tantôt, il a pu dire, je suis parfait. Parce que je sais que son cœur, lui, il se référait au fait que, ben, en moi-même, je suis imparfait, c'est sûr. Mais en Christ, quand je suis placé en Christ, dans ma position en Christ, pas juste dans ma condition là, charnelle, mais dans ma position en Christ, je deviens saint, je deviens purifié et littéralement, je suis un enfant de Dieu dans la sainteté. Si vous ne devenez pas saint, ça veut dire que l'œuvre de Satan, du péché, est plus fort que l'œuvre de Jésus-Christ. Savez-vous ça? Si vous croyez que vous êtes plus pécheur que saint, vous croyez que le diable est plus fort que Jésus. Et que l'œuvre de la croix, c'était pas assez efficace pour vous purifier. Mais heureusement, moi, j'ai la foi que le travail de la croix était efficace pour nous. Amen. Moi, je crois littéralement que quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, puis j'ai demandé de me purifier de tous mes péchés, qu'il m'a littéralement lavé dans son sang. Et là, même ma conscience a été purifiée. Et en anglais, ça dit purge. Ça veut dire vraiment, là, toutes les pensées, là, les mauvaises choses que j'ai faites dans le passé ont été purgées, ont été effacées de ma vie à tout jamais. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça le message de la grâce de Dieu. Et une autre chose, dans Romains 5, verset 17, il est écrit, « Si par l'offense d'un seul, en parlant d'Adam, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Voyez-vous, ce matin, si vous recevez le cadeau de la grâce, de cette faveur non méritée, vous allez régner dans cette vie. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, c'est-tu alléchant ce matin de devenir un enfant de Dieu? On se dit, ben, c'est facile. Une chose, je veux vous attirer l'attention. Des fois, les gens vont dire, ouais, mais c'est trop facile. Ça veut dire qu'on peut vivre comme le diable et s'en aller au ciel en autant qu'on ait notre foi en Dieu. Mais comme je vous ai dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ça dit, vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alors, une fois que vous avez reçu Jésus dans votre vie, ben là, vous allez commencer à faire des choses pour faire plaisir à Dieu. OK? Vous allez commencer à vivre une vie qui va plaire à Dieu, mais c'est pas à cause de ça que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés ou en route pour le ciel parce que vous avez cru en Jésus, vous avez cru dans l'œuvre de la croix et vous vous êtes abandonné à Dieu. Vous avez dit, mais comment ça va me coûter pour aller au ciel? Ça va vous coûter très cher. Savez-vous? Ça va vous coûter toute votre vie. C'est tout. Dieu vous demande tout. Si vous voulez garder 99% de votre vie et 1% à Dieu, bien, vous rentrerez pas. Ou si vous donnez 99% à Dieu et 1% à vous, c'est encore, ça marche pas. Dieu veut toute votre vie. Et quand on est prêt à dire, Seigneur, je t'abandonne tout. Je t'abandonne toute ma vie. Là, Dieu dit, parfait. Là, je peux te laver, je peux te nettoyer. Je peux faire de toi un chef-d'œuvre pour ma gloire et me glorifier à travers ta vie. Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est prendre quelqu'un qui soit à terre, qui soit dans la misère ou qui soit dans l'abondance et la joie, puis semblerait-il dans la perfection selon les hommes. Il veut prendre une personne comme ça et dire, moi, je veux me glorifier à travers sa vie. Je veux démontrer à tout le monde que cette personne-là, c'est mon chouchou. C'est pour ça que souvent je parle d'être un chouchou du bon Dieu. Parce que littéralement, Dieu est bon et chouchou, ça veut dire qu'on marche dans la faveur de Dieu, on marche dans sa grâce. Savez-vous, si Dieu m'offre sa grâce et si Dieu m'offre la possibilité de devenir un chouchou, que moi je dis oui. Il y en a, ah oh, ben là, être un chouchou du bon Dieu, voyons donc. Ah ben, savez-vous, à l'école, il y a des professeurs qui disent, ben, ils disent pas là, mais il y a des élèves qui sont plus chouchous que d'autres. Avez-vous déjà vécu ça à l'école? Il y en a, on dirait, ils ont des traitements spéciaux. Ben moi là, j'aime ça avoir les traitements de Dieu. Et savez-vous, n'importe qui dit oui à Dieu, n'importe qui dit, Seigneur, moi je te donne ma vie, vous allez voir que Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. Moi, je suis témoin depuis l'âge de 3 ans. J'ai jamais débarqué du chemin de Dieu. J'ai toujours marché avec Dieu. Et je dis pas ça gloire à moi, c'est gloire à Dieu. Parce que j'ai évité de vivre toutes sortes de problèmes que le monde peut nous offrir. Le monde va nous offrir toutes sortes de belles choses. Mais finalement, il y a toujours une blessure qui est attachée avec ça. Mais avec Dieu, si on marche toujours avec lui, on vit une vie de bénédiction. Et sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, c'est vraiment une vie dans les plans parfaits de Dieu. Et savez-vous, en marchant dans les plans de Dieu, Dieu nous prépare jamais un précipice où on va se blesser et où on va se faire mal. Mais il nous reste toujours un chemin dans les verts pâturages qui est écrit dans Psaume 23. Et on marche avec lui et Dieu prend soin de nous. Il nous guide par son esprit. Quand on va prendre une décision, puis si c'est une mauvaise décision, Dieu nous parle dans notre cœur. Il dit, fais pas ça. Il nous enlève la paix dans notre cœur pour qu'on puisse savoir que c'est pas sa volonté. Il nous donne la paix quand c'est une bonne décision. Le Seigneur veut nous guider par son esprit et nous faire découvrir la vie en abondance pour qu'on puisse marcher dans la joie tous les jours. Mais si on fait à notre tête, bien, on vit les bobos que le monde peut nous offrir. Mais Dieu nous laisse toujours un choix. Qu'est-ce qu'on veut faire? Mais la grâce de Dieu nous est offerte. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14, j'aimerais ça vous lire un texte ce matin. Si à date, qu'est-ce que je vous ai raconté là, vous trouvez ça difficile à comprendre, bien, je vais expliquer une raison pourquoi ça pourrait être compliqué. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Ici, c'est écrit, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Si vous parlez avec un mécanicien, il va vous parler des termes de mécanicien, n'est-ce pas? Vous parlez avec un médecin, il va vous parler des termes d'un médecin, n'est-ce pas? Des termes concernant la médecine, tout ça. Quand on parle avec un pasteur, il va vous parler des choses spirituelles. Mais heureusement, j'espère que vous comprenez, si c'est pas du chinois que je vous parle ce matin, hein? Il y a du monde que vous comprenez. Au verset 14, il est écrit, « Mais l'homme naturel, quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas reçu la nouvelle naissance, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La seule façon qu'on peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu, c'est en passant par l'étape de la nouvelle naissance. Quand on reçoit la nouvelle naissance et on devient un enfant de Dieu, à ce moment-là, on va lire la Bible et avant, on la comprenait pas, mais tout d'un coup, aïe, aïe, je comprends, waouh, Dieu me parle. Et là, on est béni et on grandit dans ses voies. Et quand on se met à prier, là, c'est plus froid, c'est plus un temps dans le désert, la solitude, mais là, l'Esprit de Dieu vient sur nous, vient habiter notre chambre, là où on prie, et on ressent littéralement sa présence. Ça change tout dans nos vies, être un enfant de Dieu. Et savez-vous, il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu, on ne peut pas le voir, on ne sait pas s'il est là. Mais savez-vous, le vent, même si on ne le voit pas, on peut ressentir la présence du vent, n'est-ce pas? Et la même chose, la présence de Dieu qui vient s'installer, on la ressent. Et moi, je l'ai ressenti toute ma vie. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Et tout ce qu'on peut recevoir de la main de Dieu, comme je vous ai dit, c'est une grâce, c'est une faveur non méritée. Ça veut dire qu'on ne mérite pas ça. Si on peut avoir ces faveurs-là, c'est simplement parce qu'on était assez simple d'esprit qu'on a dit oui. J'étais assez simple, j'étais un enfant. 3-4 ans, j'ai dit oui. Si ça vous prend quelque chose de compliqué, vous allez chercher longtemps. Il y a des gens qui quittent, s'en vont aux Indes et puis ils vont rencontrer des gourous pour essayer de combler le vide qui est dans leur cœur. Mais Dieu, là, il est à la porte ici, il frappe à notre cœur, puis il dit « Laissez-moi entrer ». C'est tout aussi simple que ça, c'est tellement simple, des fois qu'on passe à côté. Donc, comment, premièrement, qu'est-ce que je vous ai raconté ça ici? Comment est-ce qu'on peut devenir un enfant de Dieu? La première chose qu'on peut comprendre, c'est que tous ne sont pas enfants de Dieu. Dans la société dans laquelle on vit, les gens disent « Ah, nous sommes tous des enfants de Dieu ». Et surtout dans le temps de Noël, des fois, il y a des chants comme ça qui vont dire « Nous sommes tous des enfants de Dieu ». Mais Dieu ne dit pas ça. Regardez qu'est-ce que Jésus a dit aux religieux dans Jean, chapitre 8, verset 44. Jésus, vous savez, des fois, là, on parle de lui comme étant un homme de paix, mais Jésus n'avait pas sa langue dans sa poche non plus. Hein? Jésus disait la vérité. Dans Jean 8, 44, il dit « Vous avez pour le père le diable ». Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Wow, j'aimerais pas ça que Jésus me dise ça. Mais la prochaine chose qu'on doit comprendre, OK, c'est pas tout le monde, on n'est pas tous enfants de Dieu, mais tous peuvent devenir enfants de Dieu. Il n'y a pas une clique spéciale. Et Dieu dit, ben, faut que tu ressembles à telle affaire, faut que tu portes une cravate, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Non, tous peuvent devenir un enfant de Dieu. Ce matin, ça donne bien, je porte une cravate, alors. Mais, vous savez, on peut tous devenir un enfant de Dieu si on dit oui. Dans Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voyez-vous, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » On a le pouvoir ou le privilège de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, donc c'est pas une naissance naturelle ici que Dieu nous parle, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on lui donne notre vie aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qu'on lui dise, « Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie. » Tous ceux qui l'ont reçu, il faut simplement le recevoir. Savez-vous, ceux qui vont au ciel, est-ce que c'est les gens parfaits? Oui. Mais d'eux autres même, est-ce que c'est les gens, là, on va dire, ah, ben, ils ont toujours marché dans leurs conditions d'une façon parfaite? Non, ceux qui se rendent au ciel, c'est simplement les pardonner. C'est tout. Si vous êtes pardonné, vous pouvez aller au ciel. Mais si vous refusez le pardon, vous demeurez dans vos péchés, vous demeurez dans vos fautes. Et là, par la suite, vous êtes responsable devant Dieu et vous allez devoir répondre pour votre propre vie. Moi, je ne veux pas répondre pour ma vie. Moi, je veux que ce soit Jésus qui réponde pour moi à ma place. Comme on a vu dans la vidéo. Si je m'en vais là pour me faire peser, voir mes œuvres, j'aimerais ça que Jésus vienne prendre la place et dire, écoute, c'est moi, j'ai pris tout le paiement pour lui. C'est merveilleux. Alors, reposez-vous pas sur votre propre justice, sur votre bonté. Reposez-vous sur la bonté de Jésus. Dans Romains 10, verset 9 à 10, il est écrit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc le confesser de la bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Si tu crois que Jésus est mort sur la croix, mais qu'il est resté là, c'est pas assez. C'est dit, tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et la justice, c'est d'être déclaré juste, d'être déclaré saint. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est facile d'entrer au ciel, mais ça l'a coûté très, très cher au Seigneur Jésus. Jésus a donné sa vie au complet. Il est mort sur la croix. Il a souffert. Et aujourd'hui, on a simplement besoin de dire oui. Et par la suite, une fois qu'on a dit oui, on commence à marcher avec Dieu et on marche dans les œuvres de Dieu et on est béni. Les gens autour de nous sont bénis, sont dans la joie. Donc, ce matin, après l'adoption, les clés du bonheur. Savez-vous que beaucoup, beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie, ils ont arrêté là. Ils ont fait une prière, ils ont dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Mais après, ils ont vécu sous le jugement, ils ont vécu sous la loi, ils ont vécu sous toutes sortes de choses de la religion. Ils n'ont pas découvert la vie abondante. Ils n'ont pas découvert le vrai bonheur. Et mon cœur pour cette église, c'est non seulement ce qu'on puisse être sauvé, être certain d'aller au ciel, mais je veux qu'on puisse goûter à la vraie vie en Jésus. Savez-vous, quand on est sauvé, né de nouveau, et que l'Esprit de Dieu vient nous habiter, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est par la suite, on va être heureux et dans la joie. Savez-vous pourquoi on peut être dans la joie? C'est qu'on va lire la lettre d'amour que Dieu nous a écrite et on découvre les conseils de Dieu pour notre vie et on commence à marcher selon les conseils de Dieu et on découvre que tous les conseils de Dieu, c'était pour notre bien et qu'on marche dans la joie. Et dans Osée, chapitre 4, verset 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Aujourd'hui, je veux vous laisser savoir si vous dites oui à Jésus-Christ, et vous voulez vraiment y donner votre vie, Là, savez-vous qu'est-ce qui dépend de vous? Bon, le ciel, c'est gratuit, Dieu vous l'offre. Qu'est-ce qui dépend de vous après? C'est votre croissance. Vous décidez le rythme de votre croissance. Si vous voulez venir à l'église une fois par semaine, bien là, vous allez grandir un dimanche à la fois. Et vous allez grandir comme ça, un dimanche à la fois. Si vous manquez un dimanche, bien là, vous allez grandir un dimanche aux deux semaines. Et si vous manquez une autre semaine, un dimanche aux trois semaines, vous décidez le rythme de votre croissance. Mais savez-vous, une fois par semaine, ça, c'est le minimum. Mais qu'est-ce que j'ai dit à ma femme quand elle venait juste d'être sauvée? Quand on se fréquentait au début, même pas, on se fréquentait même pas encore. J'ai dit à Mathilde, j'ai dit, si tu veux, là, tu peux grandir très facilement et rapidement. Savez-vous comment on peut faire ça? J'ai présenté des cassettes vidéo d'une enseignante appelée Joyce Meyer. J'ai dit, écoute cette femme-là, dis-moi si tu aimes ses enseignements. Écoute-la, puis si tu aimes ça, je vais t'en faire d'autres. Je vais t'enregistrer d'autres émissions de la télévision. Alors Mathilde, elle s'est mise à écouter des vidéos. Et puis, elle a passé à travers 8 heures d'enseignement dans sa semaine, puis elle dit, j'en mange, j'aime ça, ça m'intéresse, c'est super merveilleux. Alors moi, j'ai acheté d'autres cassettes vidéo, puis j'ai enregistré plein d'émissions, puis elle écoutait ça à la semaine longue, et après un an de s'être donnée à Jésus-Christ, il y a les gens de l'église qui ont dit, mais coudonc, ça fait combien de temps que tu es une chrétienne, toi? Ça fait combien de temps que tu t'es donnée à Dieu? Elle dit, ça fait un an. Mais on dirait, ça fait 10 ans que tu es une croyante. Tu connais tellement d'affaires sur Dieu. Mais savez-vous pourquoi qu'elle avait grandi comme ça? Parce qu'elle avait pris la décision de grandir. Elle avait pris la décision de vouloir grandir. Alors, on peut tous aller au ciel et juste se rendre, juste pour dire qu'on se rend, mais aussi on peut décider de grandir. Et qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est merveilleux? C'est comme on grandit dans les voies de Dieu, on découvre aussi la joie de notre salut. Et la majorité des chrétiens qu'on rencontre souvent sont malheureux. On leur dit, ça va-tu bien? Ça va. Ouais, pas si pire. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut transférer ça, votre langage, changer votre langage à « c'est merveilleux, je vis de gloire en gloire, j'ai plein de percées dans ma vie, je priais pour telle affaire, puis Dieu m'a exaucé, j'étais malade et Dieu m'a guéri, j'étais pauvre, j'étais endetté, mais Dieu m'a délivré. » Mais c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut nous délivrer, puis les promesses de Dieu sont oui et amen. Ils sont pas juste là pour qu'on puisse dire, waouh, c'est donc bien beau, des belles promesses, c'est poétique. Non, Dieu veut qu'on puisse prendre ces promesses-là, les déposer dans notre cœur, croire et les vivre. C'est ça qu'on est supposé de faire, c'est de vivre la Bible, tout simplement. Donc, après l'adoption, c'est l'héritage. Dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17, on va lire ça ensemble. Savez-vous, si vous adoptez un enfant, et cet enfant-là, habituellement, va devenir votre héritier, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous adoptez un enfant, admettons, vous en aviez deux naturels, mais vous avez adopté un autre enfant, vous ne direz pas à votre enfant adopté, bien, toi, je vais te donner juste 25%, puis le restant, je vais donner ça aux autres. J'aime mieux mes autres enfants. Non, quand Dieu nous adopte dans sa famille, on devient héritier et co-héritier avec Christ. Tout ce qui appartient à Jésus, ça devient à nous également. Ça, c'est merveilleux. Écoutez ça. Romains 8, 15 à 17, ça dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclave pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père » ou comme « Papa ». C'est simplement ça. On peut parler à notre Père céleste maintenant et dire « Papa ». Verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et quelle sorte de souffrance qu'on peut comprendre ici? Mais savez-vous, des fois, les gens vont se moquer de nous parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Quand on a reçu le don de la vie éternelle, les gens vont dire, ben, comment ça, toi, tu vas à l'église les dimanches matins? T'es-tu rendu un fanatique religieux? Et ça peut nous faire souffrir dans notre cœur, dans nos émotions, d'être mal jugé. Mais simplement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est apprendre à connaître le Dieu de la Bible. On veut s'exposer à sa parole pour apprendre à le connaître davantage, pour saisir des victoires dans nos vies et vivre dans la joie. On n'a pas embarqué dans une religion. C'est pas une religion. J'ai pas une religion à vous vendre ou à vous offrir. Et Dieu n'en a pas de religion non plus pour vous. Dieu vous présente une personne. Son nom est Jésus et veut qu'on puisse avoir une relation. C'est une différence entre une religion et une relation. Dieu vous offre une relation aujourd'hui. Donc, après l'adoption, c'est l'héritage d'un enfant de Dieu. Et dans Romains 10, verset 8, il est écrit, « La parole est près de toi. » Heureusement, la parole est près de nous. On peut découvrir qu'est-ce qu'elle en dit. « Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, le message que nous prêchons, nous, ici, c'est le message de la parole de la foi, un message de foi. C'est quoi ça? Savez-vous, moi, là, je ne prêche pas le doute. Quand vous allez arriver ici, vous êtes malade, admettons, je ne vais pas vous dire, « Wow, c'est merveilleux, reste comme ça. T'es pauvre, t'es cassé. Dieu est en train de te façonner, t'es en train de te briser, là. Gloire à Dieu pour ça. » Le message de la foi, c'est de prendre les promesses de Dieu. On n'invente pas, là. On prend les promesses de Dieu, on les prend, on les saisit et on dit, « Moi, j'y crois, je crois ces promesses-là. Ils vont sortir de ma bouche, ils vont être déposés dans mon cœur et la bouche va parler de l'abondance du dépôt dans mon cœur. » Et là, je vais commencer à décréter la parole de Dieu et je vais croire la parole de Dieu et je vais voir la réalisation des choses que je vais prononcer par la foi. Est-ce que c'est de la pensée positive? Mais savez-vous, d'un certain côté, oui, parce que Dieu, ça donne que c'est pas un marabout puis c'est pas un dépressif. Dieu est positif. Donc, si je commence à penser comme Dieu pense et parler comme Dieu pense, je me mettrai pas à chialer à journée longue et penser comment c'est triste et malheureux d'être un enfant de Dieu. Donc, je vais être positif, je vais être dans la joie, je vais être visiblement content parce que je suis un enfant de Dieu. Mais c'est pas une pensée positive où on s'invente des scénarios. Non, on va prendre la parole et la parole nous réjouit. Amen. Donc, j'essaie de terminer prochainement, là. Je vais vous laisser quitter bientôt. Les clés du bonheur, après l'adoption, c'est l'héritage et c'est la découverte. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, ça dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Si vous êtes malade aujourd'hui, Dieu vous dit ici que la parole de Dieu, c'est la santé pour votre corps. Josué 1, verset 8, il est écrit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Savez-vous que Dieu souhaite la réussite de ses enfants? C'est le cœur de Dieu. Moi, là, j'ai deux petites filles. Pensez-vous que je me lève le matin puis je dis, « J'espère que Floramé va couler tous ses tests à l'école. Mais semble, là, elle va vraiment apprendre à se confier en toi. Ça peut vraiment là, échouer dans tout. » Mais des fois, on pense que Dieu est comme ça. On se pense plus fin que Dieu parce qu'on ne souhaiterait même pas ça à nos enfants. Non, moi, j'ai un désir que ma petite fille, quand elle va à l'école, qu'elle réussisse. On prie pour elle, on prie la bénédiction de l'Éternel sur elle. Ben, Dieu, c'est la même chose. Il veut notre réussite. Mais la réussite de Dieu, ce n'est pas toujours la réussite que les gens pensent. Des fois, pour être un succès dans le monde, il faut avoir une grosse Cadillac, puis il faut avoir la grosse cabane, et là, ah, ben, toi, tu as du succès dans ta vie. Non, savez-vous, le succès, c'est quoi? Le succès, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Si Dieu vous appelle à être un missionnaire et de vivre dans une petite maison en foin, là, ben, vous êtes une réussite aux yeux de Dieu. C'est ça, être une réussite. Mais si Dieu vous appelle à avoir une belle maison, puis vous pouvez accueillir des missionnaires qui viennent vivre chez vous, ça aussi, c'est la réussite. La réussite, ça ne se calcule pas avec une calculatrice. La réussite se calcule avec la volonté de Dieu. Est-ce que j'ai répondu à l'appel de Dieu sur ma vie ou je fais à ma tête? Ça, c'est la volonté de Dieu. Josué 1, 8. Et aujourd'hui, l'avant-dernier point, aujourd'hui, Dieu dresse devant nous la pensée de l'éternité. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit, « Il a mis dans leur cœur, en parlant des êtres humains, la pensée de l'éternité. Chaque être humain, que vous soyez religieux ou non, chaque être humain, dans votre cœur, vous pensez à l'éternité. Peut-être pas tous les jours, mais ça s'est arrivé que vous avez pensé à la vie après la mort. Vous avez pensé à des choses comme ça? Parce que Dieu l'a dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Si Dieu a déposé la pensée de l'éternité, à quelque part, c'est parce que Dieu veut qu'on fasse quelque chose avec cette pensée pour qu'on puisse vivre l'éternité. C'est pas juste pour nous agacer. Dans Proverbes 14, 12, il est écrit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Si on pense de se diriger par notre jugeote, par notre pensée, et dire, « Ben, ça, je vais faire ci, je vais faire ça, à ma façon, » Dieu dit, « Cette voie-là de l'homme, même si ça paraît bien, elle conduit à la mort. » Et vous savez, devant toutes ces décisions-là qui sont devant nous, comment est-ce qu'on peut marcher d'une façon sécure, une façon où on est certain d'être dans la volonté de Dieu? C'est en retournant vers la Bible et voir qu'est-ce que Dieu dit. Quand on fait ça, on réalise, savez-vous, que notre vie, là, ça vaut la peine d'en prendre soin, ça vaut la peine de penser à l'éternité. Il y a des gens qui vont acheter de l'assurance pour leur auto, l'assurance pour leur maison, ils vont acheter de l'assurance pour plein d'affaires, mais pour la vie éternelle, on n'en parle pas, on y pense pas, parce qu'on ne veut pas y aller là. On a peur d'ouvrir cette porte-là. Mais aujourd'hui, Dieu a créé une opportunité pour nous de laisser entrer le Seigneur dans nos vies. Et vous savez, dans le psaume 144, verset 4, il est écrit, « L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Dans d'autres textes, ça dit l'homme est comme une vapeur. La vie de l'homme, c'est comme une vapeur. On est ici, quoi, 90 ans, 95 ans, 120 ans au max. Et après ça, c'est tout. Est-ce que toute notre existence, c'était juste pour 120 ans? Admettons, même si vous avez 120 ans. Est-ce que c'était le but de notre vie, c'était pour avoir une maison, une auto, avoir des enfants, puis après tout ça, ça vient de s'éteindre? Non! Dieu a un but pour votre vie. Et Dieu veut vous donner la vie éternelle. Il veut qu'une fois que vous allez mourir, que votre esprit va aller le rejoindre avec lui au ciel. Et la seule façon que votre esprit va aller le rejoindre au ciel, c'est si vous le laissez entrer dans votre vie et entrer dans votre cœur. Si vous dites, ben moi, je veux y aller tout seul, de ma façon, ben ça marchera pas. Ça marchera pas, vous allez revirer de bord, rendu là. Faut dire oui à Jésus-Christ et recevoir le don de la vie éternelle. Vous pourrez dire, je vais payer 100$ pour ce don-là, et c'est pas assez, parce que Jésus a pleinement payé. Matthieu 16, versets 25 et 26, il est écrit, « Celui qui vaudra sauver sa vie, la perdra. » Si vous dites, non, moi je peux pas la donner à Jésus, mais ça dit, vous la perdrez. « Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que vous allez donner à Dieu en échange? Qu'est-ce que vous allez donner à l'humanité en échange? Admettons, là, vous allez dire, bon, ben moi, je ne peux pas me donner à Dieu parce que j'aime trop faire telle et telle chose. Et ça, j'aime trop ce plaisir-là. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un certain plaisir dans le péché, mais c'est juste passager. Qu'est-ce que vous allez donner en échange pour l'éternité? Savez-vous, 120 ans, c'est rien comparativement à l'éternité. Moi, je pense, étant un enfant de Dieu, moi, je crois que la meilleure chose à dire, c'est, moi, ces 120 ans-là, admettons si j'ai 120 ans, je veux les vivre pour Dieu et passer l'éternité avec lui. Jésus a tout fait pour nous épargner du chemin de l'enfer. Il ne veut pas envoyer personne en enfer, mais ceux qui refusent le don, ils refusent son chemin de la vie éternelle. Et c'est eux-mêmes qui choisissent de s'éloigner de Dieu. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de notre âme? Moi, je ne donnerai rien. Moi, je vais donner mon âme. Je vais donner ma vie. Aujourd'hui, il y a un choix devant nous. Et Deutéronome 30, verset 19, il est écrit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Dieu nous dit, « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu nous donne un choix. Dans Amos 4, 12, ça dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Même si vous êtes en santé aujourd'hui, est-ce que quelqu'un vous a promis demain? Avez-vous une garantie que vous allez vous rendre jusqu'à demain? La Bible nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Dans Hébreux 3, 15, ça dit « Pendant qu'il ait dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, pendant que toutes les têtes sont penchées, et pendant que tout le monde ferme les yeux, il n'y a personne qui regarde ici. Il y a Dieu qui vous regarde et moi, je vous regarde ce matin. Par politesse, je vais demander tout le monde de pencher vos têtes et de fermer vos yeux. Je veux que ce soit un temps solennel devant Dieu. Si ici, vous avez ressenti le Saint-Esprit parler à votre cœur, vous toucher dans votre cœur et peut-être vous vous dites, peut-être je devrais faire confiance à Jésus-Christ et m'abandonner à lui. Peut-être je devrais dire oui et recevoir le don de la vie éternelle. Et aujourd'hui, savez-vous, le Seigneur vous reçoit avec les bras ouverts et dit, mon enfant, je veux t'avoir avec moi pour l'éternité. Je te reçois, je t'aime, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de dire oui. Un mot qui change votre vie. Dire oui, oui Dieu, je te reçois. Je reçois le pardon, je reçois la vie éternelle, oui, je reçois la délivrance, oui, je reçois la guérison, oui, je reçois la provision, je reçois tout de toi. Mais ça va vous coûter peut-être votre orgueil, dire oui. Aujourd'hui, je ne vous gênerai personne, mais s'il y a quelqu'un ici, vous voulez dire oui à Dieu, je vais vous demander de lever la main, là où vous êtes, et on va, tout le monde après, on va prier ensemble. Tout le monde, on va prier une prière de oui à Dieu. Mais je vais demander ce matin, s'il y a une ou plusieurs personnes que vous aimeriez dire oui à Jésus, je vais vous demander simplement en levant la main. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prier ensemble maintenant. Je vais vous demander tous de répéter après moi, ceux qui croient dans le message de la Bible. Ceux qui croient dans ce que je vous ai présenté ce matin, du conseil de Dieu, je vais vous demander de simplement répéter après moi. Et ceux aussi par l'Internet, c'est un temps sacré pour vous qui va être marqué pour vous pour l'éternité. Et un jour, quand vous allez vous présenter devant Dieu, vous allez avoir Jésus à vos côtés pour être votre avocat, pour vous défendre. Parce que vous n'aurez pas fait confiance à votre justice, mais vous aurez fait confiance à Jésus-Christ. Alors, prions ensemble et répétez après moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin du Sauveur. Pardonne-moi. Lave-moi de tout péché. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Glorifie-toi dans ma vie. J'accepte aujourd'hui ta grâce. J'accepte aujourd'hui de devenir ton chouchou. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Amen. Vous savez, la foi, il y a une certaine foi, des fois qu'on peut avoir, la foi temporelle qui dit, je crois que Dieu existe. Mais la Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Mais pourtant, les démons n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas une foi intellectuelle que Dieu veut. Il veut une foi du cœur, une foi qui s'abandonne. Et une fois qu'on a fait ça, on peut vous dire félicitations, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue. Et la Bible dit que quand un seul pécheur se tourne vers Dieu et s'abandonne à Dieu, qu'il y a un party au ciel avec des multitudes d'anges, parce que la compagnie du ciel vient d'agrandir. L'ennemi veut nous faire peur, nous intimider, nous faire dire non à Dieu. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, partout à travers la francophonie. Et je veux vous inviter également, si vous avez été touché aujourd'hui, écrivez-nous à info@evqmedia.com. Laissez-nous savoir que vous avez pris cette grande décision, celle de donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. J'ai invité l'équipe de la louange ce matin. C'est un message. Le plus important, c'est la raison pour laquelle on se rassemble chaque dimanche. C'est parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et on a le privilège de le louer, le célébrer, malgré les temps difficiles des fois, malgré les contraintes de la vie. On sait que Dieu est au contrôle et que Dieu est là pour nous. Et Dieu va nous conduire vers le bon port. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.